Donc, nous sommes réunis pour parler du livre que Madame Forero et Monsieur Montebello viennent de publier, qui s'intitule « Kant, son esthétique entre mythe et récit ». Donc, je vais les présenter, je vais aussi formuler quelques questions un petit peu développées, et puis je leur laisserai évidemment toute la place pour répondre. Et ensuite, la salle aussi pourra s'exprimer. Donc, je me tourne d'abord vers Madame Sabine Forero. Elle est philosophe de formation. Elle est actuellement professeure d'esthétique à l'Université de Pau. Après avoir longuement enseigné en art plastique à l'Université Michel Montaigne, Bordeaux 3. Parmi ses thèmes de recherche, on retiendra particulièrement la théorie de l'art, de la Renaissance jusqu'à l'époque des Lumières, l'anthropologie et l'herméneutique des images. J'avais eu l'occasion de recevoir Madame Forero lors d'une précédente rencontre à la librairie Mola, il y a une dizaine d'années,
oui.
Hein, voilà, pour la parution de son livre « Le temps des ruines » publié chez Champvallon. Madame Forero a aussi dirigé un ouvrage collectif intitulé « L'art à l'épreuve du social » publié en 2012 aux éditions des Presses universitaires de Bordeaux. Quant à Monsieur Pierre Montebello, il est professeur de philosophie à l'Université de Toulouse-Le Mirail. Il s'est attaché à explorer un courant de pensée qui est souvent méconnu, qui va de Maine de Biran à Deleuze, en passant par Nietzsche et Bergson. Il a publié plus d'une dizaine d'ouvrages, dont je ne citerai que les plus récents, Deleuze, la passion de la pensée chez Vrin, en 2008, et la même année, au même éditeur, Deleuze, philosophie et cinéma. Donc, l'ouvrage dont on va parler ce soir est un livre coécrit, ce qui est une originalité, qui expose un parcours d'analyse et de pensée mené en commun et collectivement assumé, dont le chapitre d'introduction pose fermement le projet. Pour qui connaît les auteurs, certaines inflexions font penser plutôt à l'un ou plutôt à l'autre, mais peu importe, ce qu'il faut reconnaître, c'est la parfaite cohérence d'un projet dont le développement se manifeste jusqu'à une conclusion extrêmement ferme. Je vais avoir le plaisir de les interroger, donc je le ferai à partir de mes impressions de lecture. Je voudrais regrouper mes remarques autour d'un petit nombre d'axes de questionnement que je me permettrai de développer un peu pour vous les présenter. Et ensuite, je leur donne toute liberté, évidemment, c'est pour eux que vous êtes venus, de répondre avec le développement et le choix qu'ils veulent faire dans les interventions.
Peut-être que tu me laisses te présenter.
Ah bah si
30 secondes. Donc Brigitte Jongé, qui a été professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Camille Julian à Bordeaux pendant des années, qui est aujourd'hui vice-présidente de la Société de philosophie de Bordeaux, également membre de la Société des études kantiennes de langue française.
Je te remercie.
Voilà.
Merci. Le livre, donc, vous le voyez, se présente sous une couverture d'un bel orangé, qui est un peu flashy peut-être, mais qui correspond peut-être au caractère un peu détonnant, je me le suis dit en le voyant, du contenu de l'ouvrage. En effet, le contenu de l'ouvrage entend contester et récuser, ils vous en parleront mieux que moi, toute une doxa interprétative, moderne et contemporaine, portant sur l'esthétique kantienne telle qu'elle s'expose essentiellement dans la première partie de la critique du jugement et plus spécifiquement encore dans l'analytique du beau. Alors, en feuilletant cet ouvrage, restons dans l'extérieur, l'éventuel futur lecteur va d'abord trouver un grand nombre de belles planches illustrées. J'insiste sur ce point, c'est bien agréable. Elles sont référencées de façon très documentée en fin d'ouvrage. Il n'y en a pas moins de 19, ce qui m'amène à souligner le minutieux travail de recherche, de documentation mené par les auteurs, et aussi probablement la performance éditoriale, car les représentations iconographiques sont très soignées, et étant donné le rapport qualité-prix de l'ouvrage, c'est sûrement une prouesse. Néanmoins, cette abondance d'illustrations ne laisse pas d'interroger, étant donné que l'on sait que Kant, dans le texte dont j'ai parlé, ne donne pas quantité d'ouvrages esthétiques. Il en donne un petit nombre, et ces ouvrages sont assez pauvres, comme cela a été souvent remarqué. Mais il évoque aussi des choses dont on ne parle pas souvent ou pas tant que ça en histoire de l'art, c'est-à-dire des ornements, des cadres de tableaux, aussi des frises sur le modèle des Grecs, je veux dire des frises, dessins à la grecque, des tatouages, des dessins réguliers sur les visages portaient les sauvages, ce qu'on appelait à l'époque les sauvages par opposition aux civilisés, qu'ils soient iroquois ou néo-zélandais. Donc l'iconographie s'ouvre à tout cela. Elle fait aussi appel à des planches qui représentent des beautés naturelles qui nous rendent très, rêveurs à les contempler, des oiseaux du paradis, des crustacés marins, des roses, des fleurs, des lys, pin phare redouté. Enfin, il y a quelque chose à admirer là-dedans. Alors ceci me conduit à ma première question je leur adresse. Quel est le sens de ce recours à l'image dans lequel je vois pour moi une double orientation? D'une part, comme c'est indiqué, je vais faire mon petit pivot à la page 207 207 de l'ouvrage, rendre compte de l'univers visuel de Kant, écrivent les auteurs, ce qui me semble en effet une formule synthétique intéressante. Et deuxième orientation, plus polémique, cette fois nettement plus polémique, même provocatrice, que l'on trouve peu après, page 208, Kant, philosophe du papier peint, écrivent-ils, plus que des beaux-arts. Donc je les laisse sur cette double interrogation.
Je commence peut-être, on va ainsi se relayer. Alors c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas prévu de faire un ouvrage illustré. C'est vrai qu'en philosophie, on fait rarement des ouvrages illustrés. Dans le cas de Kant, c'était peut-être un pari encore plus improbable parce que, bon, tout le monde sait que la culture artistique de Kant est quasi nulle, donc il ne s'agissait pas de mettre des images pour mettre des images. Alors, il y a des images qui semblaient vraiment importantes, parce que c'est vrai, quand on étudie la philosophie, quand on a été étudiant de philosophie, comme ça a été notre cas, on se rapporte rarement aux images. On lit les textes et puis on fait un peu comme... Il y a quand même un traitement général de l'exemple en philosophie comme quelque chose d'un peu secondaire ou de second ordre. Et puis on fait comme si c'était ça allait de soi. Et alors on a tous lu ces pages de Kant où on parle de rinceaux. Et puis on se demande pas trop ce que c'est que les rinceaux finalement. Alors le projet premier, c'était de se dire bon, regardons de près, parce que ça aussi, ensuite c'est pas simplement pour voir ce à quoi ça renvoie, c'est que ça nous aide à mieux comprendre l'analyse de Kant et pourquoi il fait référence à cet exemple-là. Donc recherche sur les rinceaux. En faisant la recherche sur les rinceaux, c'est vrai que j'ai trouvé de belles choses, passant de là à tout l'art décoratif du 18e néoclassique, puisque Kant c'est quand même toute cette époque-là où on aimait beaucoup les rinceaux dans la décoration des pièces, au-dessus des portes, dans les papiers peints, justement, sur les bordures de papier peint, sur les vêtements. Enfin bon, c'est une époque où l'art décoratif est très, très développé et où on revient à ces vieux motifs antiques, anti-déluviaux, enfin vraiment très, très plurimillénaires, si on peut dire, ou enfin du moins pluriséculaires, donc de très, très vieux motifs qui sont pris dans ces rinceaux. Alors déjà, on s'était dit, bon là, on va mettre quelques exemples. Ensuite, le papier peint, à bien y regarder, on s'est dit, mais que veut-il dire? Et puis, en faisant quelques recherches, on est tombé sur le fond qui existe à la BNF, puisque au moment de la Révolution française, il y a eu un fond qui a été constitué. Le papier peint était une industrie qui venait de naître et qui était en pleine expansion. Et donc, les révolutionnaires ont eu cette idée d'engranger des feuilles pour avoir le souvenir des différents, enfin, conserver quelque chose dans des archives de ces créations de papier peint qui sont, il est vrai, assez remarquables. on trouve les fameuses grecques, on en trouve même énormément. Voilà que les grecques dont parle Kant à plusieurs moments prenaient vie, prenaient forme, ça devenait tout à fait fascinant. Et voilà, l'enquête iconographique a continué. Alors merci Internet, parce que je crois que cette recherche aurait été très compliquée à faire il y a quelques années. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde le sait, c'est tout à fait facile de retrouver des images. Les très beaux dessins de Parkinson sont arrivés et c'est vrai qu'on a tous en tête ce passage où Kant parle des Maoris, des Maoris tatoués. Bon, quand on sait que l'Australie et les îles de Tahiti ont été découvertes au 18e, on se dit bien qu'il y a dû avoir des dessinateurs. C'est vrai, à l'époque, il y avait toujours des dessinateurs dans les explorations. Voilà. On remonte, on retrouve, on se dit, mais c'est peut-être ça qu'il a eu sous les yeux. Alors, quand tu revenais tout à l'heure sur la phrase rendre compte de l'univers visuel, bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire voilà ce qu'a vu Kant, parce qu'on en a pas de preuves. Il y a quelques noms qui sont cités, des noms de zoologistes, des noms de naturalistes. On sait bien qu'il était intéressé par ce qui constituait quelque chose de très important dans la culture du temps. Tout le monde lisait l'encyclopédie, tout le monde lisait Buffon. Tout le monde a forcément vu les planches de Buffon, magnifiques aussi, parce qu'il y a tout un tas de dessinateurs qui ont travaillé pour Buffon, pour illustrer Buffon. Donc on comprend mieux pourquoi il parle de perroquets, d'oiseaux de paradis, qui étaient le summum de l'exotisme, pourquoi il parle de crustacés. Tout à coup, ça prend figure, ça prend forme, comme je disais tout à l'heure. Alors, c'est évidemment pas littéral, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire voilà exactement. Le projet, c'était davantage d'essayer de donner quelques éléments pour recomposer cet univers visuel. Mais on en reparlera sans doute. Une des thèses étant que, enfin ça, aucun philosophe n'écrit sans s'abstraire de son temps. Et probablement, même s'il est très spéculatif, comme c'est le cas de Kant, il y a quand même quelque chose comme un univers visuel. Donc ça paraissait, plus le projet avançait, plus ça paraissait effectivement important d'essayer d'en rendre compte. Alors, quant à la formule plus amusante, je vais peut-être laisser Pierre en parler. Bon, c'était effectivement une provocation vers la fin du livre, parce que là, on rejoint peut-être ce qui est au cœur de notre projet, dans une tentative pour réfuter certains stéréotypes d'interprétation.
Oui, philosophe du papier peint, bon, c'est évidemment une formule pour énerver les Kantiens. C'est une formule pour les lecteurs qui se revendiquent de Kant et qui nous disent toujours, quand ils lisent la critique de la faculté de juger, oui, Kant annonce le pointillisme, le cubisme, tout l'art moderne, tout l'art abstrait. Ah bon ? Nous, on ne voit pas ça du tout dans le texte. Alors, au lieu de parler de ce qu'il n'a pas vu, essayons de parler de ce qu'il a vu. Et ce qu'il aurait pu voir à son époque, on vient de le dire, des planches botanistes, des planches géologiques, des rinceaux et des papiers peints. Peut-être d'ailleurs, les a-t-il vus dans sa chambre, on ne sait pas. Peut-être les a-t-il vus dans sa demeure de Königsberg. Donc, toujours est-il que les références qu'il emploie ou qu'il utilise doivent être étudiées. On ne peut pas se référer à ce qu'il n'a pas vu. On doit se référer à ce qu'il est susceptible d'avoir vu et aux raisons pour lesquelles il dit se servir de ces exemples-là. C'est-à-dire, il invoque des raisons. Bon, bien, quelles sont ces raisons? Quelles sont les raisons de l'utilisation de ces exemples? Alors évidemment, c'est parler de papier peint, c'est beaucoup moins glorieux que de parler de pointillisme,
du Belvédère,
de tout l'art abstrait. Ça fait tout d'un coup Kant semble retomber dans une sorte de banalité esthétique, mais c'est ça qui est intéressant. Pourquoi a-t-il choisi ces exemples de banalité esthétique que sont les rinceaux, le décorum, les décors, les images communes de son temps? Alors c'est ce qui nous a intrigués tout d'abord, et c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est dit, il y a quand même un traitement de Kant qui est tout à fait choquant et qui est tout à fait inouï. C'est peut-être le seul texte d'esthétique dans lequel on ne commande pas les exemples que prend l'auteur. Et on passe sous silence, ou alors on les commente, mais d'une manière un peu, comment dire, rapide, en disant que c'est tout à fait accessoire, que c'est pas important, que c'est quelque chose que Kant a utilisé parce qu'il ne connaissait pas encore l'art moderne. C'est toujours le même argument qui revient. Donc, dans l'utilisation de ces exemples. Voilà donc la raison pour laquelle ce livre nous semblait absolument non abouti si nous n'avions pas eu ces planches, si l'éditeur n'avait pas consenti à les insérer dans le texte. Il nous semble que le texte aurait été mutilé et n'aurait pas été... on n'aurait pas... notre projet aurait été mutilé aussi, c'est-à-dire nous n'aurions pas montré doublement que l'image... que les images qu'utilise Kant sont intrinsèquement liées à sa redéfinition de l'esthétique.
Alors, peut-être deux petites choses, si tu me permets, juste sur la façon dont ces images sont présentées. Alors, c'est vrai qu'on c'est une des raisons pour lesquelles on a publié cet ouvrage aux Presses du Réel, qui n'est pas connu comme une maison d'édition de philosophie, qui est très connue par les gens qui travaillent en art et en art contemporain, parce que c'est une maison qui est associée au Musée Consortium de Dijon et qui publie énormément d'écrits d'artistes. Et eux ont accepté de publier joliment, comme tu l'as dit, en pleine page, en couleur. C'est vraiment très, très, très bien fait. Il n'y a eu aucune discussion et le livre reste effectivement d'un prix... assez étonnant, qui est même pas le prix d'une revue universitaire, malgré, enfin je dis pas ça pour que tout le monde l'achète, j'espère que tout le monde l'a acheté ou va l'acheter, mais c'est pas, vraiment, c'est vrai que c'est une très belle édition. Entre parenthèses, juste le flashy orangé, ça on n'a pas voulu, hein, c'est eux qui ont imposé, donc il faut pas surinterpréter, d'accord, c'était pas d'accord. Pour se faire remarquer dans la librairie, c'est leur collection. C'est vrai qu'ils passent pas inaperçus. Un autre tout petit détail qui peut étonner aussi, il n'y a pas vraiment, tu l'as dit, on a rejeté les commentaires d'images en fin de volume, et donc on a souvent laissé un peu implicite ces images. Oui. Alors ça tenait du clin d'œil, hein, c'est-à-dire le lecteur de Kant en connaît certaines, la rose, le lys, l'oiseau, le perroquet, l'oiseau de paradis, le crustacé, il va retrouver son monde. De temps en temps, on a mis une petite phrase qui est tirée du texte pour la situer, mais il s'agit, c'est pas non plus de faire un commentaire de ces images. Donc elles ont un statut qui n'est pas non plus le statut que peuvent avoir des images dans un texte d'esthétique où vraiment il va y avoir un appui sur les images. Hein. C'est pas les images qu'on commente, mais elles jouent leur rôle, elles sont en contrepoint avec notre texte, elles ont un rôle important.
Voilà. Oui, je pose maintenant une autre question, toujours en partant d'un point de vue qui peut paraître un peu externe. Le problème que je me suis posé, qu'une librairie pourrait se poser, est le suivant. Où convient-il de ranger dans les rayons d'une librairie l'ouvrage que nous avons sous les yeux? Alors, la première réponse est tout à fait immédiate. Bien sûr, dans le rayon philosophie, sous la rubrique « Études sur Kant », tout y convie, le titre, le contenu, l'occurrence des textes cités, la conceptualité très rigoureuse qui est examinée et évaluée, qui comporte de nombreux thèmes comme le jugement réfléchissant, esthétique ou téléologique par rapport au jugement déterminant, l'appareil transcendantal du sujet, la célèbre trilogie des facultés cognitives, la critique de la théologie spéculative, la doctrine de l'obligation morale, l'architectonique du système des critiques, et j'en passe et j'en passe. Donc, certainement là, mais aussi dans le secteur beaux-arts et histoire de l'art, étant donné l'importance des références qui sont faites à des courants artistiques, Monsieur Montebello vient d'en énumérer certains, mais on peut en citer d'autres, le néoclassicisme, le romantisme, l'art abstrait et l'art conceptuel, à des débats qui ont marqué l'histoire de l'art, la primauté du dessin sur la couleur ou l'inverse, la question de la forme belle, le rapport entre le goût savant, le bon goût et la création artistique originale, le débat sur le figuratif non figuratif, la discussion sur le beau naturel, l'affinité entre moralité et art, la question de la possibilité d'une expression artistique au-delà de toute considération du beau, etc. Là encore, on peut allonger la liste. Il y a aussi des jugements critiques ayant trait à l'histoire des beaux-arts. Et là, nous avons pléthore de noms propres cités avec une bibliographie extrêmement fournie dans les notes en fin de chaque chapitre. J'en reprends certains, Malevitch et Kandinsky, Delaunay Mondrian, Didi Huberman Greenberg, Michel-Henri Panofsky, Nietzsche et Derrida. Et là, il y a beaucoup plus que je n'en retiens. Donc, on pourrait dire aussi, dernière perspective de classement pour cet ouvrage que je suggérerais, il faudrait le mettre dans le rayonnage qui regroupe les ouvrages théoriques ayant trait à la réception, à la théorie de la réception d'un texte, qu'il s'agisse d'un texte littéraire, d'un texte philosophique ou d'un autre type de document, puisque nous cheminons avec les auteurs à partir d'un problème de réception d'un texte philosophique, en l'occurrence celui de Kant, critique de la faculté de juger, première partie du grand 1, de la partie esthétique. Et il se donne le projet de remonter à une lecture raisonnée du dit ouvrage, d'éclairer à nouveau frais son sens, de développer une interprétation et de contrer l'interprétation qui est souvent donnée, en particulier cette fameuse doxa interprétative sur laquelle ils vont nous en dire un peu plus, doxa interprétative qui voit dans Kant à la fois le précurseur de l'art moderne, l'exemple qui lui aurait manqué étant l'art abstrait, et le promoteur d'un formalisme. Donc, la question que je leur pose maintenant, c'est de savoir, parmi cette richesse de possibilités d'orientation de la lecture, s'il y en a une qu'ils privilégient ou s'elles sont connectes, et dans ce cas-là, s'ils les articulent ou s'ils les hiérarchisent.
Commence. Bon, je crois qu'il y a plusieurs manières de répondre à ta question. Une d'abord un peu extérieure qui tient à notre formation et surtout aux engagements qu'on peut avoir en tant qu'enseignant dans les départements où on a travaillé respectivement, les auteurs sur lesquels on a travaillé. Alors, c'est vrai que Pierre est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la philosophie française du XXe siècle, Nietzsche, toute la perspective d'une lecture, on va dire, pour faire vite, déconstructive des textes et critique, donc habitué à mettre en question à la fois les textes dans leur soubassement, dans leur non-dit, et aussi les modes de réception et les lectures des textes. Moi, comme tu l'as dit en me présentant, j'ai travaillé et je continue à travailler avec des étudiants d'art, des étudiants d'histoire de l'art. Et donc, bien sûr, ce n'est pas simplement que j'ai acquis cette habitude, c'est devenu aussi un principe de travail. Je cherche toujours à articuler histoire de l'art et philosophie. Alors, on peut dire que c'était d'autant plus nécessaire que, comme tu l'as dit, on reviendra, je pense, sur ce point, le projet initial, le cœur du projet, c'était essayer de mettre fin à un stéréotype de lecture sur lequel on butait toujours et qui est connu d'un peu tout le monde, à savoir Kant, annonciateur de l'art moderne. Donc, quand on le dit comme ça, ça paraît un peu invraisemblable. Et pourtant, on le trouve écrit et sous beaucoup de plumes. Et donc, on voulait tordre le cou à ce stéréotype. Alors, faisant ça, évidemment, ça incluait de se demander aussi qu'est-ce que c'est cet art moderne dont parlent les auteurs ? Qu'est-ce que c'est cet art abstrait qui confondent d'ailleurs souvent avec de l'art non figuratif ? Est-ce que c'est pareil, abstrait, non figuratif ? À d'autres moments, on trouve des commentateurs qui parlent d'art informel. Alors, tout ça, ça a des sens quand on est rigoureux en histoire de l'art, qui ne sont pas les mêmes, qui ne renvoient pas aux mêmes choses. Et puis, on se rendait compte que s'il y avait une vulgate aussi développée des commentateurs de Kant, il y avait d'un autre côté une vulgate des théoriciens de l'art, qui n'était pas moins importante et qui renvoyait à des manières d'écrire l'histoire de l'art et à un certain récit d'histoire de l'art. Donc, il fallait démêler tout ça. D'où la présence, je dirais, de ces diverses orientations, à la fois une lecture qui se voulait critique et qui se voulait soupçonneuse, on va dire, c'est le projet plutôt d'une orientation philosophique, une critique qui essayait de démêler les choses et pour les démêler, comprendre comment elles s'étaient nouées, pourquoi on avait dit que Kant était un moderne, pourquoi d'autres avaient dit que Kant était un néoclassique et qu'il annonçait le néoclassicisme, ce qui n'est peut-être historiquement, ça paraît plus vraisemblable, mais pas forcément plus rigoureux non plus. Qu'est-ce qui était en jeu là et qu'est-ce qui était aussi en jeu dans la lecture de l'histoire de l'art, d'une certaine manière de construire les récits de l'histoire de l'art et pour les philosophes, du coup, de s'appuyer sur ces références artistiques. Alors, peut-être que chacun d'entre nous y est allé avec son orientation privilégiée. C'est pour ça que je te dirais hiérarchisée. Bon, c'est vrai que pour moi, cette culture historique, elle était là et ça m'a donné l'occasion d'essayer de remettre les choses à plat. Pour Pierre, probablement, cette lecture plus soupçonneuse, c'était une habitude déjà de travail et ça allait bien avec notre projet. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faudrait hiérarchiser. En revanche, il y a un peu tout ça. Oui, c'est-à-dire que le titre fait très ouvrage de philosophie, voilà. Mais quand on l'écrivait, on se disait c'est vraiment un bouquin qui servirait beaucoup aux étudiants d'art, y compris des écoles des beaux-arts, qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce texte de Kant qui est très, très compliqué puis, et qui peut rebuter. Donc, ça serait aussi une manière de proposer une lecture un peu claire de certaines choses, tout en revoyant des modalités de réception. Donc, je ne crois pas qu'on les ait forcément hiérarchisées. Je dirais qu'elles se sont imbriquées dans la rédaction et que chacun... peut-être accentué dans un sens ou dans l'autre.
Oui, les deux côtés sont indissociables, esthétique, philosophie. Mais ce qui nous a intéressé dans ce livre, c'est pour ça que je ne le classerai pas, je ne dirais pas c'est plutôt en philosophie ou c'est plutôt en esthétique. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que nous avons voulu aussi interroger le discours philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'un discours philosophique ? C'est-à-dire, le discours philosophique semble articuler des arguments très rationnels, hein, et donc très argumentatifs, etc. Or, d'ailleurs, comme toute théorie, même une théorie esthétique semble très rationnelle, argumentative, etc. Or, il nous a semblé que et l'esthétique et la philosophie véhiculaient des tas de schèmes ou de schémas ou d'idées qui ne sont pas du tout fondées sur des arguments rationnels, et qui sont plutôt fondés sur des sortes d'impensées que tout le monde accepte tacitement, et qui vont se répéter, des gloses qui vont se répéter de livre en livre, et dans lesquelles on ne trouve aucun fondement. C'est-à-dire, et c'est pourquoi le livre de Kant était intéressant, aucun argument de Kant ne va dans le sens de ce qui est répété sur Kant. C'était donc un ouvrage... vraiment très intrigant et très intéressant sur la manière dont un commentaire philosophique se construit sur la base à la fois d'un échafaudage qui se veut clair et rationnel, mais surtout qui est fondé en réalité sur ce que nous avons appelé une sorte de mythologie active, une sorte de fabulation. Hein, une sorte de... Et il nous fallait comprendre les raisons de cette mythologie et les raisons de cette fabulation. Pourquoi voulait-on à tout prix que Kant soit annonciateur de l'art moderne ? Pourquoi voulait-on à tout prix que Kant annonce le formalisme esthétique ? D'où venaient ces choses dont on voyait très bien qu'elles ne pouvaient pas s'articuler au texte ? Et c'est là où Sabine vient de le dire. Nous avons... je crois qu'un des versants du livre qui est quand même tout à fait central, c'est ce questionnement soupçonneux et un peu nietzschéen. C'est-à-dire, nous faisons une généalogie d'un discours. Nous nous intéressons à la genèse et à l'origine d'un discours. Comment est-ce qu'il s'est construit et pourquoi s'est-il construit comme ça ? Et là, nous allons chercher des motifs inavoués. Nous avons cherché à faire avouer les auteurs. Pourquoi dites-vous ce que vous dites ? Eh bien, nous avons essayé de le comprendre et d'en trouver les raisons. Elles n'étaient pas si faciles que cela à trouver, mais nous avons trouvé au moins deux raisons, hein, une pour l'esthétique et une pour la philosophie. C'est que la philosophie s'est toujours voulu... a toujours voulu que le concept soit supérieur à l'image. Il a toujours voulu que le concept ait une force historique même plus grande que l'image et qu'il soit même en situation d'annoncer des images que personne n'a jamais vues. Hein, c'est bien ce qui s'est passé avec Kant. Et puis pour l'esthétique, eh bien, c'était le formalisme. C'est-à-dire le formalisme, la constitution d'une esthétique très formaliste en Occident, hein, a cherché une sorte de précurseur qu'elle a cru trouver en Kant, sans qu'il y ait vraiment des raisons là-dessus. Et c'est cette association entre formalisme et kantisme qui a très bien marché comme une machine à renforcer à la fois le formalisme et le prestige de Kant à la fois. Et voilà. Donc c'est vraiment une lecture soupçonneuse et qui interroge vraiment la manière dont des discours se forment, hein, et le rôle, y compris en philosophie, de tout ce qu'il y a d'inconscient, d'impensé, hein, de fabulatoire à l'intérieur d'un discours.
Alors, ce que M. Montebello vient de dire amène vraiment vers le cœur du débat et de la polémique qui est ouverte dans ce livre, puisque ce que les auteurs pourfendent sous l'appellation de mythe interprétatif consiste à dire que si... Je reconstruis un petit peu leurs propos. Si l'esthétique kantienne est si pauvre en exemples, en matière d'exemples artistiques, ben c'est bien sûr parce que Kant ne connaissait pas tout et il avait des limites de ce côté-là, mais c'est surtout parce que lui a fait défaut le mouvement de création artistique qui aurait pu correspondre à ce qu'il voulait montrer dans ses analyses. Donc, l'orientation résolument figurative de la peinture du XVIIIe siècle s'avérerait particulièrement inadéquate, dit cette doxa, par rapport à une esthétique kantienne qui est une esthétique de la forme pure, hautement désireuse, toujours selon cette doxa, de se dispenser, de s'émanciper des prestiges de l'image. Donc, les deux versants connexes de la situation seraient une esthétique sans les arts, ce qui donne le titre d'un des chapitres de l'ouvrage, et d'autre part, on en vient d'en parler un petit peu, l'anticipation quasi prophétique par Kant, on se demande par quelle grâce ce prophétisme lui est donné, d'un art émancipé enfin de la représentation, purement libre et autoréférentiel. Pour le dire autrement, l'esthétique kantienne aurait été en attente d'un art enfin adéquat à son concept. Et cet art enfin adéquat à son concept, ce serait l'art abstrait contemporain. D'où le titre d'un chapitre, là aussi un petit peu provocateur, « L'art abstrait, l'exemple qui manqua à Kant ». Et le point d'interrogation indique l'impatience critique de nos deux analystes contre cette doxa, particulièrement répandue et selon eux, parfaitement insoutenable, tant par rapport à l'orientation de l'esthétique de Kant qu'à la réalité de l'art abstrait. Donc, la doxa ainsi critiquée intervient, par rapport à cette doxa ainsi critiquée, comme Mme Forero vient de le rappeler, intervient une interrogation sur ce qu'il faut entendre par l'art abstrait. Et là, des pages très intéressantes du point de vue de la... théories de l'art sont consacrées à cette question. Là aussi, c'est autour de la page 70 pour ceux qui suivent les paginations dans l'ouvrage. Donc, je me demande, en disant ceci, si la confusion qui est dénoncée par les auteurs ne viendrait pas, en quelque sorte, d'une sorte de confusion tournant autour du mot « forme ». Forme au sens kantien, le formalisme kantien, le schématisme de la forme chez Kant et la forme dans l'art abstrait, dans l'art contemporain, la forme-force par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas là un porte-à-faux qui, dans le fond, est un peu à l'origine du malentendu et de l'équivoque que vous dénoncez ?
Alors, oui, on va y revenir. Pierre a déjà dit quelques mots à ce propos. Et on a d'ailleurs identifié assez rapidement, je crois qu'on lit dès l'introduction, je vois là, la page 14, tu vois. Je me retrouve quand même dans le texte, même s'il y a quelques temps qu'on l'a fermé. On identifie effectivement le point de glissement là, hein, dans cette question. Alors peut-être avant de revenir sur ceci, juste remettre en place ce fameux stéréotype interprétatif, cette doxa dont tu parlais tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler que effectivement, c'est une doxa qui semble surtout présente dans les commentaires français. On n'a pas travaillé sur des commentaires étrangers. Alors, je pense qu'il y a un tas d'interprétations là et qui tiennent aussi à la manière dont L'art abstrait a été diffusé en France, l'importance de certains philosophes, je pense à Hippolyte, la relation à Kandinsky, etc. C'est probable. Bon, ce sont des à côté, mais enfin, ça resterait à prouver pour le commentaire dans d'autres langues. Donc là, on ne veut pas généraliser. C'est vrai qu'on s'est appuyé sur des commentaires français. Ensuite, parmi ces commentaires, il faut dire que les ouvrages dans lesquels il est le plus fréquemment développé, ce sont des ouvrages à vocation scolaire et universitaire. Alors, on pourrait dire, ce serait facile de nous dire, mais ce n'est pas les grands commentateurs de Kant, les grands commentateurs de Kant, ils ne tombent pas dans le panneau. D'abord, je pense que tout commentaire est important et qu'il y a finalement, bien sûr, des commentaires qui ont leur public, mais ce n'est pas moins important de regarder ce qui se dit dans les commentaires scolaires, parce que de toute façon, ils vont peut-être former beaucoup plus de gens que les commentaires très instruits qui vont être lus par peu de gens. Et donc, du coup, cette doxa, elle a d'autant plus de chances de se répandre et d'en devenir difficile à déraciner ensuite. Alors ça, c'était peut-être pour revenir sur les ouvrages, et c'est vrai qu'on le trouve souvent. On le trouve dans presque tous les commentaires. Je pense que nous, comme étudiants et anciens étudiants, on l'a forcément entendu en cours, on l'a peut-être même dit comme prof, et je me mets dans le panier, parce qu'on l'a soi-même tellement entendu, alors on va dire, Kant, ce qu'il dit dans le paragraphe 16 en particulier, je ne vais pas revenir sur des points techniques, connus sur la finalité sans fin, évidemment, il prend l'exemple du papier peint, des rinceaux, c'est un peu pauvre, le pauvre, il ne pouvait pas proposer autre chose. Parce qu'il lui manquait l'art abstrait. Et c'est en général toujours comme ça que c'est formulé. Mais s'il avait eu l'art abstrait, évidemment, ça allait dans son sens. Et puis après, l'argument va encore plus loin. Ça se retourne et on dit il annonce l'art abstrait lui-même. C'est-à-dire que la puissance de son raisonnement est telle que, n'ayant pas l'art qui convient, il était forcément en avance sur son temps. Donc, il nous laissait présager quelque chose comme un art abstrait. Bon, voilà à peu près l'argument quand on l'est construit. Alors, pour revenir à ce que tu disais, je vais probablement laisser la parole à Pierre. Mais c'est vrai que tout tourne, ou semble tourner autour de cette notion de forme, qui est à un sens évidemment très, très important dans le texte de Kant, et qui est une notion qui est discutée, précisée. Et bien évidemment, il va y avoir un glissement de ce sens philosophique. Alors la notion de forme, elle ne commence pas avec Kant, elle charrie aussi tout un héritage philosophique, de sens technique dans le texte. Et puis on va glisser vers un sens formaliste, esthétique, où là on va aller vers l'idée d'une forme pure, avec ce que sous-entend le formalisme dans une acception assez fréquente, à la fois de réflexivité et d'abstraction, sur le plan esthétique, et on va trouver une manière de plus de cautionner ce glissement vers l'art abstrait. Je te laisse peut-être revenir sur la notion de forme.
J'ai pas grand-chose à ajouter. La notion de forme, c'est une si vieille notion philosophique et si riche notion philosophique depuis Aristote, Platon, Aristote, etc., jusqu'à Kant. Alors on pourrait se demander, est-ce que Kant révolutionne la notion de forme ? Est-ce qu'il lui donne un statut esthétique ? Mais d'abord, il faut se rendre compte que le texte de la Critique de la Faculté du Génie n'est pas du tout un texte sur les arts.
Pas du tout. C'est sur la sensibilité.
C'est un texte sur l'esthétique, c'est-à-dire la relation du sujet au sensible. Ce n'est pas du tout un texte sur le statut des beaux-arts. Si même les beaux-arts ont leur place à l'intérieur du livre, on voit bien que les beaux-arts sont très difficiles à définir pour Kant, qui s'empêtre dans des distinctions qui sont des distinctions de son temps, qu'il n'est pas très au point même sur tous les héritages qu'il reçoit, et que c'est bien assez confus quand même dans l'exposition de la Critique de la Faculté de Juger. Donc le statut des beaux-arts est très compliqué dans la Critique de la Faculté de Juger. Mais alors le statut de la forme, ce n'est pas une forme des beaux-arts, c'est une forme pour la conscience. Nous sommes ici dans, pour la conscience et pas du tout une forme au sens où on entend une forme d'un tableau, par exemple, où l'art abstrait va entendre que l'art, on va entendre dans l'art abstrait l'utilisation des matériaux propres à une œuvre d'art. On dira qu'un art est se dirige vers le formalisme lorsqu'il abandonne la représentation, lorsqu'il abandonne l'historia, lorsqu'il abandonne toutes les conventions morales, etc., pour aller vers les éléments proprement picturaux. Et c'est ça qu'on appellera le formalisme, si on veut donner une définition très rapide et très vague aussi, parce qu'on reviendra beaucoup là-dessus à l'intérieur du livre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la forme grancienne ? Absolument rien. Donc il y a eu là quelque chose qu'il fallait interroger et qui était, mais quel est le statut de la forme au fond, chez, de la forme esthétique, même s'il parle d'esthétique, de la forme esthétique chez Kant ? Qu'est-ce que ça a à voir avec les pratiques de l'art, la pratique picturale elle-même ? Quand un Malevitch peint des monochromes, qu'est-ce que ça a à voir avec la couleur pure de Kant ? Qu'est-ce que ça a à voir, cette idée que la couleur pure serait le jeu régulier des impressions sensibles que je synthétise dans ma conscience ? Qu'est-ce que ça, ça a à voir avec le travail de Malevitch qui va utiliser des pinceaux, travailler des couleurs pures, pratiquer des aplats pour faire ressortir l'intensité chromatique, etc. Qu'est-ce que ça a à voir ? Et donc, là encore, on était dans une sorte de confusion sémantique qu'il fallait absolument débroussailler. Et c'est pourquoi nous avons pris le parti de bien, grâce à Sabine qui a beaucoup apporté là-dessus, de bien distinguer ce que c'était qu'un art informel, ce que c'était qu'un art abstrait, et ce que c'était qu'une forme picturale, de bien travailler là-dessus, de bien montrer que Kant ne vise absolument pas à penser cela du tout.
Oui. Alors, à ce point de notre discussion, il me semble qu'il faut revenir un petit peu du côté de la question des visées et des intentions de Kant dans ce texte, dont il a déjà été dit qu'on venait de les soupçonner, qu'elles relevaient de l'impensé. Alors, de l'impensé, je ne sais pas, parce que Kant est un philosophe très systématique et dont le projet est tout de même d'organiser un système des trois critiques. Mais néanmoins, de choses qu'il n'avoue pas nécessairement dans le texte de la critique du jugement. Donc, je vais préciser ma question en fonction de la visée qu'elle a par rapport à la logique interne de la pensée de Kant. Que voulait faire Kant, qu'est-ce que Kant voulait-il faire ? Non, que voulait-il faire ? Ça en fait trop de négatifs, interrogatifs. Qu'est-ce que Kant voulait faire lorsqu'il écrivait la critique du jugement ? En particulier, ce texte vient-il s'inscrire, et si oui, de quelle façon, dans l'ensemble de son projet critique ? C'est une question qu'évidemment les auteurs se sont posées. Dans la mesure où le projet de Kant ne peut pas être seulement la mise côte à côte des trois critiques, critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique de la faculté du jugement. Donc, je ne voudrais pas soumettre nos auteurs à un pensum philosophique trop ardu en leur demandant maintenant de reconstruire une sorte de synthèse de la pensée de Kant avec toutes les hypothèses que l'on peut faire sur cette systématicité ou cette non-systématicité, ces hiatus, ces distorsions, etc. Je vais simplement reprendre quelques jalons qu'ils ont eux-mêmes donnés dans l'ouvrage, ce qui leur permettra, comme on dit, de rebondir. Donc, page 110, après avoir beaucoup insisté sur une chose qui me paraît très intéressante dans leur travail, je ne sais pas à qui on le doit, aux deux probablement, sur la surépaisseur d'écriture de la critique de la faculté de juger. Il y a une écriture, en effet, pour qui s'est confronté à cet ouvrage, qui est marquée par des distorsions, des ratures, des surcharges. Donc, on se dit, il y a quelque chose de symptomatique là-dedans. Mais une fois qu'on a dit symptomatique, évidemment, la question est symptôme de quoi ? Alors, je reprends leur hypothèse de lecture qui est, me semble-t-il, bienvenue. Le texte, disent-ils, le texte de Kant ne se comprend, ne s'interprète que si on le lit à partir de la fin. Or, la fin dans la critique de la faculté de juger, ce n'est pas l'esthétique du beau, ce n'est même pas l'esthétique du sublime, c'est la critique de la faculté de juger téléologique, c'est-à-dire des jugements de finalité que nous sommes amenés à porter dans différents registres, en particulier en biologie par rapport aux êtres vivants. Donc, il semble que si l'on prend cette perspective, l'analyse du jugement esthétique tend à se déterminer comme une possibilité du passage du sensible, en tous les cas de l'analyse du sensible, à la dimension du suprasensible. Alors ça, pour un philosophe, c'est tout de même un grand pas, un pas risqué, un pas osé, un pas qu'il ne faut peut-être pas faire, un pas qu'on ne peut peut-être ne pas éviter de faire. Enfin, on peut discuter du statut de ce pas. Ça, c'est le premier repérage. Deuxième repérage, ils écrivent, page 159, « Disons-le d'emblée, les motifs fonciers pour lesquels Kant écrit la troisième critique n'ont rien d'esthétique. » Monsieur Montebello vient de s'en expliquer un petit peu. « Ils sont métaphysiques et moraux. » Ils sont métaphysiques et moraux. Donc la critique de la faculté de juger intervient en réponse à une exigence systématique. Ce qui est en jeu, c'est le hiatus qui a été balisé par les critiques précédentes, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, entre nature et liberté. La nature est connaissable, la liberté, c'est de l'ordre de ce que l'on expérimente, mais il n'y en a pas une connaissance possible par une synthèse de jugement déterminant. Et dernier repérage, page 183, toujours à ce propos, il est question de l'architectonique, c'est-à-dire la construction possible systématique des droits critiques et de la volonté kantienne, et c'est Kant qui s'exprime en ces termes, de jeter un pont au-dessus de l'abîme. L'abîme qui sépare la sphère de la nature de la sphère de la liberté. Donc, il est clair que le lecteur est ici amené à réinvestir le terrain kantien avec des questions, disons, de derrière la tête, comme aurait dit Pascal, sur la systématicité possible ou non, la systématicité voulue et assumée, mais dans quelle mesure, du texte que présente l'esthétique de la première partie de la critique du jugement. Donc, ma question, eh bien, c'est de leur demander de s'expliquer sur les arrière-pensées de Kant qu'ils ont découvertes à travers ce texte.
Alors, on va être bref, parce que je pense que... Ça serait un vrai coup. Bon. Simplement, peut-être avant de te répondre, resituer le projet. Pour l'instant, on a montré toute la dimension critique de notre travail, voire polémique, comme tu l'as dit. Enfin, oui, je pense que par moment, ça prend un peu ces aspects-là. Alors, notre souci, c'était de ne pas en rester à cette écriture contre. Hein. C'est-à-dire qu'il était nécessaire de nettoyer la situation, si je puis dire, dans un premier temps, et de bien comprendre ce qui était en jeu derrière ces stéréotypes. Mais ensuite, peut-être de proposer aussi une lecture du texte ancien, hein, donc que cette partie critique première, elle soit suivie par une tentative d'interprétation. Alors, particulière, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de réécrire un commentaire très précis et très, très savant sur le texte, il en existe de remarquables, c'était pas le projet, c'était plutôt un commentaire orienté qui resituait effectivement les grands enjeux. Une chose qui me paraît importante aussi, avant d'aborder vraiment la question, je tourne autour, mais tu as dit beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un texte, on peut dire ça de tout texte de Kant, mais celui-là, il est quand même particulièrement complexe. C'est le texte qui parachève toutes les critiques, donc qui arrive, c'est la troisième critique. C'est un texte qui est d'autant plus complexe qu'il a effectivement... plusieurs visées, il n'est pas très facile de comprendre ce qui suture tout cela, que Kant, en outre, il dialogue avec énormément de gens, hein, et avec d'autres philosophes, il tient compte aussi de l'héritage de ce qu'il a déjà écrit. Alors, il y a toute cette part esthétique, et évidemment, quand on prend le texte dans sa totalité, qu'on ne le coupe pas, ce qu'on fait souvent, et qu'on garde surtout la première partie, mais qu'on prend en charge la totalité, on se rend compte qu'il faut se déporter, et que l'argument n'est peut-être pas tant esthétique, mais qu'il porte effectivement sur la question de la finalité dans la nature, et que donc il faut revoir les choses. Alors, cette phrase que tu citais tout à l'heure, c'est un texte qu'il faut lire depuis sa fin. C'est déjà quelque chose que dit Derrida d'une autre manière dans le commentaire assez suggestif qu'il fait dans La vérité en peinture. Il faut lire ça depuis sa fin. Alors, on pourrait le lire en deux sens. Il faut le lire depuis le bout, mais il faut le lire aussi avec ce concept de fin parce que c'est effectivement la question de la finalité qui est probablement la question centrale. Et quand on le comprend, je dis ça pour faire un petit peu vite et par ricochet, on peut revenir sur la première partie esthétique et comprendre comment tout ça s'articule. Alors, c'est un texte dont l'articulation interne est complexe, c'est un texte qui est feuilleté, c'est un texte qui est plein de réécriture. Pierre a parlé tout à l'heure du statut des beaux-arts, il y a des classifications contradictoires, il y a une introduction qui revient. Enfin, on a l'impression que c'est un texte dans lequel on est tout le temps obligé de faire du va-et-vient, qui en dit beaucoup, puis de choses qui sont après déployées. Donc, et puis, c'est un texte qui discute avec énormément de références dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine scientifique et de thèses. Alors, pour toutes ces raisons, c'est vrai que ça fourmille de tous côtés, c'est très stratifié, c'est assez complexe. Alors, pour ce qui concerne vraiment ce que tu pointé. Bon, c'est la question, hein, c'est la question centrale, mais on n'est pas du tout les premiers à se l'être posée. Enfin, je veux dire, c'est même une question un peu académique. Qu'est-ce qui lie toute l'architectonique chez Kant et les trois critiques, essayer de les repenser. Donc, le projet, dans les derniers chapitres, a surtout voulu insister justement sur ce lien entre la nature et la liberté et resituer cette analyse de Kant dans un projet morale. L'idée souterraine à tout ça étant que si, alors bon, ça on peut en discuter, mais s'il y avait eu tant de mythes interprétatifs sur ce texte, s'il avait ouvert la porte à tant d'interprétations, c'était aussi probablement parce qu'il l'y prêtait. Et que par lui-même, alors je ne sais pas s'il faut effectivement aller jusqu'à parler d'impensé chez Kant, ouais. Parce que c'est sûr que, il y a beaucoup de choses qui sont très contrôlées. Ouais. Malgré tout, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas déployées, qu'il faut aller relire l'anthropologie pour ressaisir, il faut repenser par rapport aux autres critiques. Et tout ça, ça oblige à déporter le texte, peut-être des axes de lecture habituels et le recentrer sur des questionnements à la fois sociaux et moraux qui réinscrivent le texte dans une autre perspective. Je vais peut-être te laisser parler de ça.
Oui, oui, et qui ont des conséquences évidentes. À partir du moment où vous dites la critique de la faculté de juger n'est pas un texte sur l'art,
non.
Mais un texte qui vient chapeauter les deux autres critiques, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, et qui vient chapeauter au sens où bien, on a montré l'impossibilité de l'existence de il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, hein, et nous voilà donc perdus dans la nature avec notre liberté. Et la troisième critique, c'est d'une certaine manière une tentative d'imposer une sorte de théologie morale, hein, comme le dira le paragraphe 82, c'est-à-dire d'essayer de montrer que il y a des traces d'un auteur moral du monde, même si on ne peut pas le connaître, même si on ne peut pas prouver son existence, ces traces d'un auteur moral du monde, eh bien, on va les trouver dans deux choses, dans la finalité sans fin des produits esthétiques et dans la finalité des produits biologiques, des êtres naturels. Et autrement, eh bien, comme le disait un commentateur qui a tout à fait raison, autrement, on ne comprend même pas le texte. Pourquoi une première partie du texte sur l'esthétique? Pourquoi une seconde partie du texte sur la biologie? Ça semble être une sorte de cocktail hétérogène. Il n'y a rien qui relie les parties, si ce n'est le problème de la finalité, c'est-à-dire le problème de quelque chose qui s'adresse à nous, êtres moraux. Hein, c'est-à-dire, il y a des traces dans la nature, les produits esthétiques et les produits biologiques nous font un effet qui fait que l'on va s'interroger sur la destination de ces produits et sur le rapport qu'ils peuvent avoir avec nous. Alors, on ne va pas entrer dans le commentaire de cette question, mais ce que Sabine vient de dire est très important parce que, du coup, dès que cette perspective morale est présente, on voit tout de suite que le statut des beaux-arts devient plus compliqué. À quoi nous éveillent les beaux-arts? Est-ce que les beaux-arts nous éveillent à un devenir social, à un devenir moral? Est-ce que les beaux-arts favorisent simplement notre réflexion esthétique ou est-ce qu'ils favorisent notre appartenance à une communauté? De quel type est cette communauté? Est-ce qu'il favorise notre devenir moral? Et il va y avoir énormément de textes de Kant sur la vanité, sur les vanités esthétiques, il va y avoir beaucoup de textes sur, justement, des considérations qu'on pourrait retrouver aussi bien chez Rousseau que chez d'autres, sur, justement, le rapport des arts avec la moralité et la société. Et c'est pourquoi le dernier chapitre de notre livre a voulu beaucoup insister sur ce tiraillement incroyable dans le texte de Kant, ce tiraillement entre la finalité sociale des arts, la finalité morale des arts, et le rôle qu'il joue dans une sorte de propédeutique morale, hein, le rôle qu'il pourrait avoir là-dedans. Vous voyez qu'on s'éloigne absolument du formalisme. On n'est plus du tout dans une interrogation sur le statut formel de l'œuvre d'art, mais plutôt on est dans une interrogation sur est-ce que l'œuvre d'art favorise la communauté sociale ou et aussi est-ce qu'elle n'est pas prise dans une sorte de mécanique des passions sociales, cette œuvre d'art, ou est-ce que l'œuvre d'art est une sorte de propédeutique qui va aider l'âme à se cultiver, à se rendre plus morale, qui sont des questions absolument du XVIIIe siècle, absolument du XVIIIe siècle, et qui sont posées tout le temps par le XVIIIe siècle. Donc du coup, là encore, la question du sens de la troisième critique dans l'œuvre générale de Kant est très importante et permet de ne pas isoler la question esthétique de cette question très générale, de ne pas isoler le statut des beaux-arts de cette question générale, et soudainement de faire apparaître toute l'ambiguïté que Kant donne aux beaux-arts. Et c'est cette ambiguïté-là que nous avons essayé de traquer dans la dernière partie du texte, parce que je trouve les textes de Kant sur le génie tout à fait extraordinaire. Quoi. Le génie doit être génial, mais pas trop. Il ne faut pas qu'il soit trop génial, parce qu'il faut quand même qu'il parle à la communauté sociale. Donc le génie, il faut qu'il soit ingénieux, mais il faut toujours lui rogner les ailes, faire en sorte que son ingéniosité ne dépasse pas trop le sens commun, etc. Toute une série de démonstrations de Kant, on se dit, mais c'est très étrange, ces démonstrations, parce que justement, il doit tenir son projet. Et son projet, c'est pas les beaux-arts, ou c'est pas le génie pour lui-même, c'est le génie tel qu'il peut justement nous enseigner, d'abord le sens d'une communauté, d'être moraux, et ensuite, eh bien, tout simplement, de notre responsabilité d'acteurs moraux au sein de la nature.
Bien, je vous remercie d'être venu
ce soir.
Merci beaucoup.